Ici à Paris, le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge.
Bonjour Stéphane, merci. Il est 10h10 à Brasilia. Le comeback attendra. Lula rate son retour au pouvoir dès le premier tour de la présidentielle au Brésil. L'ex-dirigeant de gauche devra pour cela passer par un second tour contre le sortant Jair Bolsonaro. Un scrutin qui s'annonce peut-être plus compliqué que prévu. On va décrypter avec notre invité du jour. Le retour du choléra en Haïti. Plusieurs décès ont été annoncés. Et puis dans le journal de la première ensemble, Benoît Ferrand, on va revenir sur la visite de Gérald Darmanin ce week-end en Martinique.
Il y a eu un volet lutte contre le trafic de drogue et d'insécurité, mais aussi un aspect plus politique avec les suites de l'appel de Fort-de-France.
On en parle dans une quinzaine de minutes. Benoît, bienvenue à tous.
Nous continuons à la victoire finale.
La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Message de Lula hier soir de sa voix rauque. À 76 ans, l'ex-dirigeant de gauche repart en campagne ce lundi dans la perspective du second tour de la présidentielle brésilienne. Le premier tour, hier, ne lui a pas offert cette victoire par chaos contre le sortant pourtant annoncé par les sondages. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
Ce matin, ce sont donc deux visages que l'on retrouve à l'aine de la presse.
Oui, la une d'Extra, mais deux photos de Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro face à face. Lula à gauche et Bolsonaro à droite, évidemment, leurs nez se touchent presque. De fait, leurs scores imprimés sur les photos sont très proches, plus que prévu en tout cas, 48% pour l'un, 43% pour l'autre. Après un vote du premier tour en tête-à-tête entre Lula et Bolsonaro, avec un rebondissement, les deux hommes arrivent au second tour, un second tour qui ne manquera pas d'émotion, écrit le journal. Car comme le note O Estado de Sao Paulo, Bolsonaro récolte plus de votes que prévu. Le quotidien reproduit lui aussi des photos des deux candidats, main levée en signe de victoire, mais Lula est cadré un peu en dessous de son adversaire. Car même si son score est plus important que celui du président sortant, le bolsonarisme montre sa force, écrit Folia de Sao Paulo, sous des photos cette fois de militants victorieux pour ceux de Jair Bolsonaro, stupéfaits, la bouche ouverte pour ceux de Lula, qui voyaient déjà leur champion élu au premier tour. En tout cas, le vote des électeurs du centre sera décisif le 30 octobre, prédit O Estado de Sao Paulo, dans ce qui est aujourd'hui un pays divisé, titre Estado de Minas, qui reproduit en une carte montrant clairement la ligne de fracture entre le nord et l'est acquis à Lula et le sud et l'ouest à Jair Bolsonaro.
Et dans le sud, justement, hier soir à Sao Paulo, du côté de ses soutiens, des soutiens de Lula, c'était un peu la soupe à la grimace. Reportage de notre envoyé spécial Arim Lipold.
À peine quelques centaines de sympathisants sont venus sur l'avenue Paulista pour célébrer une victoire qu'ils auraient souhaité plus importante, voire définitive. Jeanne, une militante du Parti des Travailleurs, ne cache pas sa déception.
J'ai des sentiments mitigés. C'est effrayant de voir que le noyau dur du bolsonarisme est beaucoup plus fort que ce qu'on a imaginé.
Alors, à qui la faute? Pour Alina, c'est la division de la gauche au Brésil.
Ce n'est pas la faute de la campagne, ni la faute de Lula. Je pense que c'est la faute de la gauche qui n'est pas unie. Et il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est menacé par un dictateur et un effroyable mouvement conservateur.
Il reste 4 semaines pour mobiliser les électeurs. Selon Jeanne, la militante du PT, le parti doit changer sa stratégie.
Il faut chercher le dialogue direct avec les gens et ne pas se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux et le soutien des grands artistes. Il faut mobiliser la base, s'appuyer sur les militants et faire du porte-à-porte, car le second tour est loin d'être joué.
Un avis partagé par Alexandre.
Ce résultat serré du premier tour fait peur. Il faut qu'on reste mobilisé, il faut travailler dur si on veut rester dans un pays démocratique.
Alexandre envisage même déjà une possible réélection de Jair Bolsonaro. Dans ce cas, dit-il, il pourrait quitter le pays. Arim Lipold, Sao Paulo, RFI.
Voilà, c'est loin d'être gagné, vous les avez entendus, hein, ces partisans de Lula, Hervé Théry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. On va décrypter ensemble ce premier tour. Donc, premier enseignement, peut-être, c'est finalement que le bolsonarisme, comme on l'a dit, résiste. Le score de la présidentielle nous le prouve. Il y avait aussi des législatives, des élections de gouverneurs. On va y revenir un peu plus tard en détail. Mais voilà, ces différents scrutins nous prouvent que le bolsonarisme n'est pas une parenthèse, mais est bien ancré.
Oui, c'est ce dont les Brésiliens se rendent compte, comme un certain nombre de pays avant eux. Le trumpisme non plus n'a pas été barré. Orban est toujours là. Salvini est parti, mais il a été remplacé. Donc il y a pas mal de pays où on se rend compte qu'il y a 25-30% des gens qui sont ancrés dans une attitude curieuses, de déni de la réalité assez souvent et de foi dans des idées pour le moins étranges.
Oui, avec un mandat marqué par des polémiques, quasiment 700 000 morts du Covid, 52% de rejet, hein, d'opinion défavorable, et pourtant, eh bien, certains en font fi et votent pour Bolsonaro.
Oui. Ben oui, c'est 52% de rejet, ça laisse 48% pour les autres.
Avec un ancrage géographique assez précis, nous disait Christophe Paget d'ailleurs.
Oui, c'est en fait largement le sud depuis longtemps. Toute une discussion sur le centre-ouest, sur le sud-est dont on va parler, quand il dit que le vote va se jouer au centre, il va se jouer au centre politique, mais aussi au centre du pays. C'est l'État de São Paulo qui va être l'endroit où ça va se passer. Le nord amazonien et le nord-est qui sont acquis à Lula. Et entre les deux, ce qu'on oublie parfois, toutes les franges pionnières avec des gens qui marchent vers l'Amazonie, qui défrichent, qui sont contents de ne pas avoir de limites, de pouvoir être armés. Il y a tout un Far West brésilien qui, lui, est complètement acquis.
Il y a des déforestations de l'Amazonie qui a gagné, hein, de plus en plus sous le mandat de Bolsonaro. Est-ce que c'est véritablement une percée, une confirmation plutôt, devrais-je dire, du bolsonarisme? Ou bien alors, comme le disaient là les témoins que l'on a entendus dans le reportage d'Arim Lipold, une contre-performance de la gauche qui est partie en ordre dispersé pour cette élection présidentielle?
On n'en dispersait pas tellement, puisque la coalition de Lula, c'est 9 partis. Je crois qu'il a rassemblé tout le monde. Il n'y a pratiquement plus de troisième voie. Il y a 2 petits partis, ça a été mentionné, deux petits candidats. Donc ils ont fait une très large alliance. Et je pense que cette grosse déception, c'est par rapport aux expectatives. Parce que 48,5 au premier tour, c'est pas si mal.
Et, mais ce n'est pas, comme je le disais,
ce n'est pas victoire par chaos. Et les bolsonaristes sont très contents par rapport à ce qu'on leur donnait. On leur donnait 35, ils ont 42, ils sont ravis. Donc ce n'est pas tellement une dynamique bolsonariste, comme on dit, mais plutôt une erreur d'appréciation.
Est-ce que la présence de Ciro Gomes, donc candidat de centre-gauche, 3% là, je crois, de vote hier, est-ce que ça a privé ou pas Lula de cette victoire au premier tour?
Il lui a manqué 1,5 point. Donc les 3,4 de Ciro et les 4,16 de Tebet qu'on oublie, qui, elle, va plutôt se reporter.
Troisième homme qui est une femme.
Voilà, c'est ça. Et qui, elle, a déjà dit qu'elle soutenait Lula. Donc, en fait, je pense qu'il ne va pas récupérer tout ça. Mais en tout cas, ça fait largement de plus 1,5 et sûrement pas les 7 dont a besoin Bolsonaro. Donc, si on fait les calculs froidement...
Parce que, alors, elle, vous nous dites, elle soutient donc Lula, elle se rallie à lui. Mais les électeurs, est-ce qu'automatiquement ce report de voix pour ces deux candidats va se faire sur Lula? Alors,
dans les études qu'on a faites, mais on a de bonnes raisons d'être prudents maintenant, on voyait que ça se ventilait. Les électeurs de Ciro Gomes, pas tellement, mais ceux de Simone Tebet, massivement, iraient plutôt à Lula parce qu'elle vient du MDB, qui est un parti. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'il y a quand même une grosse majorité qui vont aller. Et puis, il y a une inconnue des 20% d'abstentionnistes, quand même. Ça fait quand même un réservoir de gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire.
Quelles ont été les erreurs de Lula à ne pas reproduire dans cette longue campagne d'entre-deux-tours qui pourrait justement permettre de séduire, notamment, ces abstentionnistes?
Alors peut-être pas beaucoup de projets. On ne sait pas ce qu'il va faire, en fait. C'est plutôt
il a beaucoup misé sur l'anti-bolsonarisme, finalement.
Oui, et sur la nostalgie du bon temps de où il était au pouvoir. Donc je l'ai vu il y a un mois, j'étais à 3 mètres de lui. C'était uniquement... C'était quelques jours après que je suis arrivé, dans le bâtiment où j'enseigne. Donc c'était une courtoisie de sa part.
Mais c'était une époque extrêmement différente, hein, quand il était au pouvoir.
Bien sûr, ça n'a rien à voir. C'était un boom, une époque de bonanza économique, etc. Donc il ne suffit pas de dire que c'était le bon temps quand j'étais là. Il faudrait un peu quelques propositions. Et en particulier, il perd un peu la classe moyenne et moyenne supérieure qui a besoin qu'on lui dise ce qui va se passer. Et c'est un peu celle-là qu'il a perdue.
Son colistier, plutôt centre-droite, pardon.
Franchement de droite.
Franchement de droite, même, disons-le. Ça peut rassurer, ça peut convaincre.
Ça a aidé, mais c'est quand même un très très large arc. Hein. Ça va de l'extrême gauche à des gens de la droite classique qui s'est effondrée, soit dit en passant. La droite classique, c'est un peu Pécresse ou les autres. Hein. On passe d'une situation dominante à presque rien. Ce sera pour la première fois depuis 20 ans, le PSDB n'a pas de candidat au deuxième tour dans l'État de São Paulo qui fait 27 millions d'électeurs quand même.
Vous disiez véritablement ça va se jouer au centre politique. Je reviens encore sur cette idée. Avec quoi, avec quels arguments on va aller chercher quand on s'appelle Lula ces électeurs?
Il faudrait leur dire qu'en quoi ils vont vivre mieux, parce qu'ils ont vu monter, sous son mandat et celui avorté de Dilma Rousseff, il y a eu des choses faites pour les très pauvres. Et les gens qui sont moyennement riches, qui voient des choses données aux pauvres et qui, eux, ne récupèrent rien, c'est malheureusement ça, on le sait tragiquement en Europe, le terreau du fascisme. quand on voit que les pauvres s'enrichissent et que vous, qui êtes classe moyenne, il y a, juste pour vous donner une donnée, il y a 11% des foyers fiscaux brésiliens qui payent l'impôt. Les très riches ne payent pas parce qu'ils ont de bons avocats, les pauvres ne payent pas, et donc presque tout est porté par la classe moyenne, qui n'a pas gagné grand-chose au lulisme, donc à qui il faudrait proposer des choses.
Et qui a beaucoup souffert, notamment ces dernières années, avec le Covid. On le dit, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus serré, ce second tour là, qui s'annonce le 30 octobre.
Si on regarde la mathématique, non, c'est quand même, reste assez probable qu'il gagne, mais par contre, l'après... Parce que je pense qu'on a gagné un mois de tranquillité, parce que les bolsonaristes n'ont pas de raison de faire des échauffourées maintenant.
Il avait menacé, hein,
oui, mais comme ils pensent pouvoir gagner dans les urnes, ils vont se calmer, je pense. Hein, je peux me tromper. Par contre, après l'élection, s'ils la perdent...
Voilà, alors, il y aura cet inconnu-là. Et si jamais Lula, lui, gagne, autre inconnu, c'est le Congrès. On votait aussi hier, je le disais, dominé à droite, ce Congrès. Lula, comment est-ce qu'il va négocier des alliances, lui, de gauche, avec un Congrès de droite?
Pour vous répondre un seul mot, difficilement. Non, parce qu'effectivement, 8 sénateurs du parti extrémiste de Bolsonaro, c'est très lourd, parce qu'ils peuvent, par exemple, faire l'impeachment des juges de la Cour suprême. Ça, c'est une très grande nouveauté. La Chambre des députés, avec tous les partis du centre, qu'on appelle le Centrão, qui est le centre mou, ils sont toujours prêts à se vendre au plus fort propos. Donc si Lula gagne, ils le rallieront. Ils l'ont déjà fait au mandat précédent. C'est même pour ça que le Parti des travailleurs a tapé dans la caisse, c'est pour s'acheter ces partis-là. Donc je ne suis pas trop inquiet. Par contre, des militants marqués bolsonaristes, d'anciens ministres, etc., qui sont arrivés au Sénat, eux, ceux-là sont dangereux et très idéologiques et très décidés à changer.
C'est pour ça que Lula a été très évasif, hein, même n'a jamais vraiment rien dit, sur comment il comptait négocier avec un congrès de cette couleur.
Il n'a rien dit sur rien, à vrai dire. Il n'a pas dit grand-chose sur ce qu'il pensait faire. Et là, ben, en plus, il a fait ça comme tout le monde. Il a découvert ça ce matin. Hein,
Donc c'est ce qui s'annonce, on le disait, compliqué avec la perspective de ce second tour. Le 30 octobre, donc au Brésil, Hervé Terrei, professeur à l'université de Sao Paulo, merci d'être venu jusque dans nos studios donc, pour nous éclairer sur ce premier tour de la présidentielle au Brésil. À Port-au-Prince, il est 9h22.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et ce matin, ce sont de bien mauvais souvenirs qui refont surface en Haïti. Christophe Paget, je reviens à vous. Mauvais souvenirs avec le retour du choléra dans le pays.
Oui, c'est à la une de plusieurs journaux. Recrudescence inquiétante du choléra en Haïti, titre Le Nouvelliste. Déjà 8 décès, dont un cas clinique, averti Gazette Haïti. Les journaux reprennent les chiffres donnés hier lors de la conférence de presse du ministère de la Santé publique et de la population, dont on écoute le directeur général, le docteur Lauré Adrien.
Selon toute information que nous gagnons, nombre de décès...
D'après les informations dont nous disposons, le nombre de décès se situe entre 7 et 8. Pour le moment, nous avons identifié deux endroits où les gens sont tombés malades. L'un est à Brooklyn, à Cité Soleil, et l'autre à Savane Pistache des Caillettes, dans la commune de Port-au-Prince. L'une des victimes est décédée dans son quartier. C'est un problème. Quand il y a des gens qui ont la diarrhée, des vomissements, et qu'il n'y a aucun moyen d'amener la personne au centre de santé où elle pourrait survivre.
Le docteur Lauré Adrien note la Gazette Haïti, demande aux protestataires de laisser un couloir humanitaire pour faciliter le passage aux ambulances afin d'atteindre ces zones et permettre d'évacuer les malades. L'ONU demande la même chose. Dans son communiqué rendu public hier et dont Gazette Haïti se fait l'écho, les Nations Unies disent soutenir les efforts du gouvernement haïtien pour contenir l'épidémie de choléra et fournir des mesures d'urgence pour sauver des vies. Le Nouvelliste rappelle que le pays avait célébré le 4 février dernier ses 3 années consécutives sans détection de cas et rappelle que, introduit dans l'écosystème sanitaire haïtien en octobre 2010, le choléra a causé jusqu'en 2019 environ 800 000 infections et un peu plus de 10 000 morts. Le journal a interrogé un spécialiste en maladies infectieuses, le docteur Jean-William Pape, pour qui ce retour du choléra pourrait avoir été provoqué par les troubles sociopolitiques qui rendent entre autres l'accès à l'eau et aux centres de santé encore plus difficile.
Ouais, ces centres qui ferment les uns après les autres, faute de carburant. Et dans un tel contexte, on se demande comment les enfants pourraient faire aujourd'hui leur rentrée des classes. Selon nos confrères de Télémétronome, en tout cas, cette rentrée repoussée déjà a été maintenue ce lundi par le gouvernement. Enfin, la rentrée aux États-Unis, pas des écoles, mais à la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, entame aujourd'hui une nouvelle cession après avoir supprimé il y a quelques mois, on s'en souvient, la protection de l'État fédéral au droit à l'avortement. Christophe, la Cour devrait poursuivre son agenda ultra-conservateur.
La dernière cession, résume le New York Times, s'était terminée sur une série de bombes judiciaires qui avaient éliminé le droit à l'avortement, établi le droit à porter des armes en dehors de chez soi et limité les efforts pour réduire le changement climatique. Et de lourds dossiers sont sur la table pour la nouvelle session. Discrimination positive, vote, religion, liberté de parole et droits des homosexuels, liste le journal, qui note que plusieurs des cas qui vont être examinés concernent la race dans des configurations très variées. Éducation, droit de vote, adoption. Pour le New Yorker, les dossiers les plus explosifs devraient concerner le mode de fonctionnement des élections. La Cour doit s'exprimer sur le redécoupage des circonscriptions de l'Alabama. Un seul district à majorité noire sur 7, alors que la population de l'État est noire à plus de 25%. Et, note le magazine, il y a peu de chances que les groupes de défense des droits qui ont attaqué ce redécoupage obtiennent gain de cause devant la Cour.
De son côté, le Washington Post estime que les élections de mi-mandat, dans un peu plus d'un mois, vont être très différentes du fait de cette Cour suprême.
Oui, le sujet de la plupart des midterms, c'est le parti au pouvoir, écrit le journal qui poursuit. Mais cette fois, deux partis sont considérés comme étant aux affaires, les démocrates qui contrôlent la Maison-Blanche et le Capitole, et les républicains qui contrôle la Cour suprême. Le résultat de cette élection dépendra, selon le Washington Post, du parti qui provoquera le plus la colère des électeurs. Et à ce titre, le début, aujourd'hui, de la nouvelle session de la Cour est très important. Plus la Cour est à la une de l'actualité, mieux ce sera pour les démocrates, estime l'éditorialiste.
Christophe Paget, pour la presse aujourd'hui.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
La lutte contre le trafic de drogue, la criminalité, mais aussi la politique et l'évolution institutionnelle. Au menu ce week-end de la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en Martinique.
Et oui, le ministre a coiffé sa double casquette. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort de brigades de gendarmerie et l'interdiction de la vente de certaines armes à feu. Et puis, dans le même temps, le ministre des Outre-mer, c'est la même personne cette fois-ci, s'est entretenu avec le président de la collectivité. Et là, on a bien sûr parlé politique. Écoutez Serge Letchimy s'exprimer sur les deux sujets au micro de la première.
Nous avons eu des réponses très précises, à la fois sur la suite à donner à l'appel de Fort-de-France et bien sûr les travaux du Congrès. Nous avons rendez-vous. Une délégation se rendra à Paris pour commencer les négociations et les discussions avec Gérald Darmanin et le ministre de l'Outre-mer pendant pratiquement toute une journée. On va définir la méthode de la négociation, à la fois sur les réponses à apporter par rapport aux problèmes que nous avons soulevés, mais aussi des évolutions institutionnelles demain pour la Martinique. Nous avons mis en œuvre une idée qui sera concrétisée extrêmement rapidement avec l'État. C'est la mise en place de ce qu'on appelle un contrat territorial de lutte contre la délinquance et de la prévention, qui sera co-construit avec l'État, de telle sorte qu'on puisse décliner des actions et au cœur même de la société, accompagnement de la famille, des violences intraconjugales, infraconjugales, l'organisation de la jeunesse. J'ai profité pour dire qu'il nous faut au moins 1 000 000 d'employés supplémentaires et qu'il nous faut des actions beaucoup plus puissantes au niveau de la famille, l'accompagnement des jeunes, qu'il faut mettre en activité pour ne pas les laisser dans une tentation qui ne sera pas une tentation saine.
Alors, exemple d'une tentation pas saine du tout avec Raïssa, qui a passé 10 mois de prison en Guyane pour avoir fait la mule, c'est-à-dire transporté de la drogue entre la Guyane et Paris. Elle regrette son acte, mais elle constate qu'à l'ouest de la Guyane, les jeunes sont livrés à eux-mêmes.
Moi, ce qui manquerait pour moi, c'est un accord, par exemple, avec le centre pénitentiaire, de créer des contrats pour ces gens-là. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eh bien, il faut créer quelque chose de positif, un contrat avec un centre, je ne sais pas, des centres de formation pour que ces jeunes-là, dès qu'ils sortent, ils ne sont pas relâchés dans la nature et puis ils vont recommencer la même chose demain. Au lieu de construire, j'ai entendu qu'ils voulaient construire une prison, c'est mieux de construire des centres de formation, des universités. On n'en a pas d'université à Saint-Laurent, on est obligé d'aller à Cayenne. Donc c'est tout ça qu'il faut développer en fait, au lieu de créer encore plus de chômage et de mules.
Raïssa, témoignage recueilli par Terence Moy. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista, qui est à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti des Amériques, aujourd'hui à retrouver sur RFI.fr et toutes les plateformes de podcast. Bonne journée à tous.
Tous les jours, à